Mardi 17 décembre dernier, le pape François a pris la décision d'abolir le secret pontifical dans les cas de violence et d'abus sexuels commis ou tués par des clercs ou des religieux sur des mineurs ou personnes vulnérables. Il faut dire que le secret est une pratique chère à l'Église catholique. Tiens, prenez la direction de conscience, en voilà un bien curieux dispositif. Cet accompagnement religieux et moral, mené par un ecclésiastique, vise à faire des catholiques de meilleurs croyants. Mais si, rappelez-vous, Tartuffe, le personnage accouché par Molière, et qui, sous des airs de directeur de conscience, justement, dupe Orgon et sa mère, Madame Pernelle.
Le ciel défend de très certains contentements, mais on trouve avec lui des accommodements.
Apparu au XVIIe siècle sous le nom de direction spirituelle, cette pratique disparaît avant de faire son retour au début du XIXe siècle, pour s'affirmer jusqu'en 1950 comme une véritable pratique de classe, en l'occurrence des élites, surtout féminines. Notre invité du jour a ouvert la boîte noire du catholicisme, soit un millier de lettres, une douzaine de correspondances entre des personnes dirigées et leurs directeurs de conscience, sur une période qui s'étend de 1840 jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale. Pour cela, elle s'est tournée vers les archives de communautés religieuses comme celle des jésuites, essentiellement installées en région parisienne. Une chose est sûre, jamais vous n'avez pu approcher d'aussi près ce qui trottait dans la tête des femmes dirigées de l'époque. En quoi la direction de conscience diffère-t-elle de la confession pratiquée entre les murs de l'église? Quelles questions intimes et sociales se glissent entre les lignes de ces échanges épistolaires? Quel intérêt y trouvent les femmes dirigées? Certains hommes sont aussi dirigés. Est-ce que ça fonctionne alors de la même façon? Enfin, quelle relation se noue entre le ou la dirigée et son directeur? La réponse tout de suite, bienvenue dans Chercheurs en ville. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Chercheurs en ville. Aujourd'hui, notre invitée est Caroline Muller, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférence en histoire contemporaine à l'Université Rennes 2, également autrice d'un carnet de recherche en ligne qui s'appelle Acquis de conscience. Et en avril 2019, vous avez publié un ouvrage Au plus près des âmes et des corps, c'est son nom, aux presses universitaires de France. Dans cette émission, vous répondrez aux questions de Colette David. Bonjour Colette.
Bonjour.
Et à côté de vous, Christian Lebar pour la Maison des sciences de l'homme en Bretagne. Bonjour Christian.
Bonjour Lucie, bonjour à tous.
Colette, c'est à vous.
Caroline Muller, pourquoi avez-vous choisi ce thème d'étude, la direction de conscience, c'est-à-dire toute cette pratique qui a été très en vogue, en particulier au XIXe siècle, où des ecclésiastiques guidaient spirituellement des femmes et des hommes, mais pas seulement dans leur vie religieuse, mais aussi dans leur vie familiale, mondaine, etc. Pourquoi avoir choisi ce sujet d'étude?
Bien, au départ, ce qui m'intéressait, c'était la vie religieuse des jeunes filles. C'est-à-dire que ma première directrice de recherche m'avait indiqué des journaux intimes de jeunes filles à aller consulter. Et puis, donc, en faisant cette première recherche, je me suis rendu compte qu'elles parlaient beaucoup de leur confesseur ou de leur directeur de conscience. Et quand j'ai cherché à savoir de quoi il s'agissait, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de littérature sur le sujet. Donc, j'ai commencé à réfléchir à proposer un projet de recherche là-dessus. Mais la difficulté, c'est qu'on m'a dit que c'était impossible parce qu'il n'y avait pas de source. Voilà, donc ça c'est pour la petite histoire. J'ai commencé cette recherche en sachant qu'on m'avait dit que c'était impossible. Donc voilà.
Donc comment vous avez sauté l'obstacle ?
Alors là, il faudrait en revenir à toutes les sources qui constituent la charpente du livre. J'ai fait le pari que si on avait édité toutes les lettres entre les directeurs de conscience et leurs dirigés, c'est qu'à un moment ou un autre, elles avaient dû être assemblées. Où on avait dû en faire des dossiers, en fait. Et mon idée, c'était de partir de ceux qui avaient édité ces lettres avec des objectifs moraux et spirituels pour retourner dans les fonds d'archives de ces gens-là, des gens qui avaient préparé les éditions morales, et de retrouver les originaux. Voilà, donc je suis allée retourner dans les archives des dominicains, des jésuites, du séminaire Saint-Sulpice.
Deux grandes congrégations entre oui. guillemets ou pas de guillemets, spécialistes dans l'entretien dans...
Surtout les jésuites.
Les jésuites.
Surtout les jésuites, parce que les jésuites, ils ont toute une pratique du discernement, de la direction spirituelle, qui remonte déjà à Ignace de Loyola et aux exercices spirituels, qui sont un des premiers textes qu'on connaisse, qui est une exploration systématique de soi, et une observation systématique de soi, bien sûr à des fins spirituelles.
Dans votre livre... J'ai appris que ces confesseurs et ces directeurs de conscience étaient très en vogue, d'abord au XVIIe siècle, mais qu'ils ont vite été accusés de manipuler les consciences, d'intriguer, de débaucher les femmes. Et donc, il y a eu, ça a été un peu en perte de vitesse, si vous me passez l'expression. Et après, la direction de conscience revient en vogue vers 1840. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, c'est vrai qu'il y a ce moment d'éclipse au XVIIIe siècle parce que il y a tout un complot, toute une idée qu'il y a un complot des Noirs jésuites qui seraient en fait les outils du pape auprès des puissants par le biais de la confession, puisque dans la confession, on donne ses plus intimes secrets. Donc, cette idée que les jésuites connaissent la société sous un angle tout à fait particulier, hein, l'angle des consciences. Et donc, toutes ces attaques font que la direction de conscience, la direction spirituelle, c'est plutôt comme ça qu'on l'appelle avant le 19e siècle, eh bien, cette pratique va être très décriée et on va accuser les femmes d'être immorales, en fait, quand elles ont recours à un directeur. Et puis, à la Révolution française et il y a toute cette désorganisation du clergé catholique. Il y a aussi le recul assez fort des pratiques religieuses. Donc les chercheurs ont pu parler parfois de déchristianisation, mais ce mot-là il est un petit peu compliqué, peut-être qu'on reviendra là-dessus si vous le souhaitez. Et dans les années 30-40, l'Église est dans une logique de... Oui. Je donne plutôt une fourchette plutôt qu'une année précise parce qu'évidemment c'est des choses qui dépendent des archives, donc c'est pas très précis. Et donc l'Église se lance dans une reconquête des âmes. C'est-à-dire qu'il faut récupérer l'influence sociale, l'influence spirituelle, il faut ramener les gens dans les églises. Et la direction de conscience est perçue comme un moyen à la fois de retransmettre les bonnes pratiques et les bonnes croyances, et aussi un moyen d'atteindre les familles, en particulier par le biais des femmes.
On y reviendra. Christian Lebar.
Alors oui, le livre est formidable pour plein de raisons, mais en particulier parce qu'il donne beaucoup la parole donc, à ces textes. Il y a des extraits qui sont très judicieusement choisis, très jubilatoires pour le lecteur, très drôles aussi éventuellement.
Quand on
lit ça en 2019, on se marre beaucoup. Et en même temps... Il y a une très grande ambivalence dans ce dispositif de la direction de conscience parce que d'une certaine façon, comme vous le disiez, c'est la caricature de l'emprise de l'institution sur les individus. C'est la caricature de l'emprise des hommes aussi sur les femmes, quoi qu'il y ait quelques hommes, on y reviendra peut-être de l'autre côté aussi. Et donc c'est vraiment, voilà, on peut faire une lecture un peu à la Michel Foucault, c'est-à-dire comment est-ce que l'intime doit être soumis au regard de l'institution, comment est-ce que même l'intime renvoie de l'exemplarité que l'institution doit avec vigilance surveiller. Et en même temps, et c'est toute l'ambivalence à la fois du matériau et du livre, ces femmes, elles écrivent, et par l'écriture, elles s'autonomisent, mais en tout cas, elles marquent une certaine indépendance. C'est un espace à soi dans le monde bourgeois, dans le monde domestique. Il y a des très beaux moments dans les textes où ils disent écrire cette lettre, c'est mon moment personnel que j'arrache à la domesticité, au mari, aux enfants, etc. Donc voilà, est-ce que je suis sur la bonne piste en insistant
Absolument.
Sur cette ambivalence ?
Oui, c'est toute la question qu'a travaillé le livre depuis le départ. Et tout à l'heure, vous me demandiez aussi comment j'en suis venue là. Il y a aussi eu quelque chose qui m'a beaucoup intriguée dès le départ. C'est que je commençais à connaître plutôt bien le sujet de la vie quotidienne de ces femmes, y compris dans les élites, hein, avec toutes ces contraintes, les contraintes domestiques, maternelles, conjugales. Et je me suis demandé pourquoi elles avaient besoin d'une nouvelle couche de contraintes, puisque ça me paraissait pas très logique quand on souffre déjà d'être très très encadré,
oui, il y a de la servitude
d'avoir
volontaire,
besoin, hein, voilà, ouais. De cette côté, j'essayais de me représenter à quoi pouvait servir cette servitude volontaire. Et en effet, ce que j'ai découvert, c'est que c'est un espace, la direction, qui est protégé par le secret, donc qui permet d'avoir un discours différent de celui qu'on peut tenir dans d'autres cercles et dans d'autres espaces du social. Et Et ça, c'est permis par l'écriture, et je suis contente que vous l'ayez relevé, parce que l'écriture, c'est un espace où on peut se retirer un instant des contraintes, parce que l'interlocuteur n'est pas présent. Donc il ne peut pas sans cesse dire « non, mais ça, vous ne pouvez pas le dire », ou « ceci, c'est hors sujet », ou « attention, là, vous n'avez pas la bonne manière de réfléchir ». Donc, pour moi, la direction de conscience a été souvent un prétexte. Alors, bien sûr, il y a des vrais liens qui se nouent, mais bien souvent... On dirait presque qu'on est dans de l'écriture de soi. Alors c'est paradoxal parce que c'est une correspondance, mais j'ai souvent le sentiment que cet espace-là était une écriture de soi qui servait à faire le point avec soi-même, à mieux se connaître, et puis à commencer à contester un certain nombre d'usages, en particulier sur les questions de vie maritale et de conjugalité.
Oui, parce que la relation est plus ambivalente. La relation confesseur-confessé est très ambivalente, évidemment. C'est une relation homme-femme. Souvent, il y a un différentiel d'âge aussi. Mais ces femmes, elles s'affirment aussi. Enfin, probablement aussi du fait. Alors là, il y a peut-être un biais de matériaux, mais elles ont des propriétés sociales. Elles appartiennent à la grande bourgeoisie, à l'aristocratie. Donc, voilà. Est-ce que la variable âge, par exemple, dans le rapport de force avec le, si j'ose dire.
Alors, je ne sais pas très bien si la variable âge compte particulièrement. Je sais par contre que chacun apporte des capitaux dans la relation. Donc un capital de prestige, un capital financier quand il y a des activités charitables à financer, un capital social, un réseau, un capital culturel, ce genre de choses. Et que tout ceci s'équilibre. C'est-à-dire que... Une femme qui va avoir une importance fondamentale dans le financement des activités charitables de son directeur, eh bien, ne sera pas exactement traitée de la même façon que une femme qui n'a rien à mettre dans la balance. Alors, je ne dis pas que tout ceci est conscient. C'est un peu plus compliqué que ça, à mon avis. Mais en tout cas, personne n'oublie jamais la place de l'autre, en fait, dans l'échange. D'autant plus qu'effectivement, on est dans des milieux plutôt élitaires, hein, l'aristocratie, la bourgeoisie. Et la direction de conscience, c'est aussi une pratique de distinction, au sens où on va choisir le directeur le plus prestigieux et on va se disputer pour avoir le peu de temps qui reste aux directeurs les plus en vue. Donc effectivement, c'est une pratique pour moi qui est tout autant sociale que spirituelle, hein, et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans le livre. Après, il y a d'autres... Enfin, il y a d'autres pratiques qui sont cette fois-ci beaucoup plus larges. Là, maintenant, je commence à monter un projet autour vraiment de la confession, parce que la confession, là, ça touche l'intégralité de la population quasiment, hein, sauf bien sûr les plus anticléricaux. Mais ces pratiques spirituelles de soi ne concernent pas que l'aristocratie, c'est ça que je voulais dire.
Mais la direction de conscience, c'est aussi, comme vous le disiez, un phénomène de classe, et c'est aussi peut-être une des seules échappées possibles pour les bourgeoises et les nobles, parce qu'elles ne sont pas salariées, elles ne travaillent pas, elles ne sortent pas dans le monde, ou alors de manière extrêmement... codifié. Et je reprends, c'est Madame, j'ai noté ça, j'aime bien, Madame de Menton, que vous, bien sûr...
Artémide,
qui dit « Ma dévotion et mes œuvres de charité sont, je le crains, presque toujours que des occupations légitimes pour échapper à la société de mon père et de mon mari.
Quand j'entre dans mon oratoire ou que je me mets en route pour aller voir mes pauvres, mon premier sentiment est un bonheur d'échapper à la société de mon prochain et même mon père. Lorsque je suis avec eux, la pensée de Dieu me sert à l'équité et m'est plus habituelle que quand je suis seule. »
Madame de Menton à Monseigneur Dupanloup en 1852.
C'est cet espace de... développer plus, parce que dans le livre, toutes
c'est,
ces
contraintes...
Pour
ces moi, c'est un des extraits les plus frappants, en fait, du livre. Quand j'ai lu cette phrase dans cette lettre, j'ai eu le sentiment que j'avais mis le doigt sur vraiment quelque chose, et ça m'a permis de formuler une de mes hypothèses, qui est que ce grand goût du catholicisme et des pratiques religieuses des femmes au XIXe siècle, c'est pas seulement parce que s'il y a une féminisation ou parce qu'on les éduque beaucoup plus aux sentiments ou à la religiosité, c'est aussi parce que l'espace religieux ouvre un espace de ressources. Où elles peuvent avoir un espace à elles, dans l'espace de l'Église. Mais Anne Jussaume, par exemple, qui travaille sur les religieuses et d'autres avant elle, hein, ont bien montré que le goût, par exemple, de la vocation et le fait on a tout un tas de femmes qui, tout à coup, s'intéressent à la vocation religieuse, c'est aussi parce que la vocation religieuse, ça permet d'échapper au mariage, d'avoir des responsabilités, d'avoir une autonomie. Et en particulier dans les milieux élitaires, c'est important parce que effectivement, ces femmes-là ont des emplois du temps, si je peux me permettre cet anachronisme, qui sont extrêmement réglés et des mécanismes de contrôle sociaux qui s'exercent sur elles, qui sont sans doute plus grands que ceux expérimentés par les femmes des milieux plus populaires.
1. Prière et lecture méditée, un quart d'heure en tout. 2. Messe et communion, 4 fois par semaine, avec faculté d'ajouter une 5e communion pour un motif de dévotion ou un besoin particulier de votre âme. 3. Les jours sans communion, vous reposez le matin, ne pas aller à la messe. 4. Le chapelet et un quart d'heure ou 10 minutes de lecture tous les jours. Autant que possible, placez la lecture avant dîner, 7h de 6h du soir environ, étant favorable au recueillement. 5. C'est aussi à ce moment-là, et non pas le soir, que vous ferez votre examen. J'approuve que vous en écriviez quelque chose, mais pas des volumes. 6. Très courte prière du soir. Voilà le cadre de votre vie.
Exemple de règlement, c'est-à-dire d'organisation type d'une journée ou d'une semaine, donné par Monseigneur Dulst à Madame de Château-Renard.
Et notamment la question des déplacements. En fait, il n'y a pas un déplacement en toute autonomie. Vous parliez d'Artémine de Menton. Elle dit qu'elle ne peut pas aller se confesser 3 fois par semaine parce qu'elle sait que ses domestiques vont le savoir et que ça va faire parler. Donc ça veut dire que le moins de déplacements, elle sait qu'elle est... elle est sans cesse surveillée. Donc effectivement, la pratique religieuse, c'est un moyen tout à fait moral, légitime et parfaitement admis d'avoir une activité pour soi sans risquer d'être accusé de délaisser les autres occupations. Donc, vous voyez comment un espace de contrainte est aussi travaillé de l'intérieur par des gens qui cherchent une marge de manœuvre.
Ce qui m'a étonné, entre autres en lisant votre essai, c'est les liens très physiques, si j'ose dire, entre le directeur de conscience et la dirigée. C'est-à-dire, c'est par des lettres, donc par de l'écrit, par des envois, par du papier, vous nous dites, et puis on attend, mais comment, vous ne me répondez pas, mais vous ne m'avez pas encore écrit, etc. Donc il y a des lettres, il y a la confession, mais ça on y reviendra tout à l'heure, j'imagine. Mais parfois, les ecclésiastiques viennent à la maison, viennent dîner ou déjeuner, parfois non, assistent à des baptêmes, à des mariages, partent en vacances dans les châteaux, manoirs. C'est une très grande proximité. Et puis en plus, parfois, ils ne dirigent pas seulement la maîtresse de maison, mais aussi et le mari et les enfants. Et
ça,
la belle-mère.
C'est toujours un peu délicat. Moi, je vois les secrets qui se promènent d'une lettre à l'autre. C'est un petit peu bizarre quand je vois le Monseigneur Dupanloup, par exemple. On parlait d'Artémine de Menton tout à l'heure. Il dirige aussi le neveu, la nièce et puis le mari d'Artémine. Enfin, quand le mari se laisse diriger, parce que parfois, il n'est pas trop d'accord. Mais... Oui, et ça, c'est un des éléments aussi qui m'a beaucoup intéressée. C'est que j'ai cherché à comprendre l'inscription quasi familiale de certains directeurs auprès de leur dirigé. Et c'est pour ça aussi qu'on ne va pas choisir n'importe quel directeur. Parce qu'il y a ce côté entrer dans l'intimité des familles et on ne peut pas se permettre de confier ses secrets et de laisser entrer quelqu'un dans son cercle sans avoir au préalable contrôlé qu'on se comprenait bien. Et bien se comprendre dans l'aristocratie, c'est avoir les mêmes codes sociaux et les mêmes milieux socioculturels. Donc c'est aussi pour ça que les principaux directeurs, enfin les directeurs de conscience les plus en vue, sont eux-mêmes souvent issus des mêmes milieux. Donc c'est, en fait, c'est une pratique proposée par des gens qui viennent de la bourgeoisie ou de la noblesse pour des bourgeois et des nobles.
Et en même temps, il y a mille et une variantes du triangle mari-femme, enfin directeur. Oui. Parce que il y a par exemple des maris qui sont anticléricaux. Et donc là, il y a des femmes qui portent la souffrance de vivre leur foi sans leur mari, voire contre lui. Et là, le directeur a un rôle qui est souvent très, très subtil, très complexe, voire très, très, très ambivalent. Parce que parfois, on a l'impression d'une grande proximité avec le directeur.
Oui, et en même temps, les directeurs... Enfin, ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que tous les discours anticléricaux, les discours anti-direction de conscience, anti-jésuites, ils n'ont pas totalement disparu, hein, bien au contraire. Ils sont rechargés dans les années 40, notamment avec Michelet, qui participe beaucoup à relancer cette image de la direction comme lieu de débauche et de destruction de la famille. Donc tout le monde rentre dans cette
pratique. Et pourquoi destruction de la famille, pourquoi?
Bah parce que l'autorité du directeur...
Ça montre les femmes contre les hommes.
Voilà, ouais. Exactement, parce que dans un Michelet conçoit la famille comme une fusion des âmes, des intérêts et des cœurs, et le directeur ou le confesseur, eh bien, vient se mettre au milieu de cette fusion et au milieu du foyer familial. Donc il fait entrer quelque chose d'étranger dans la famille.
C'est intéressant parce que, eu égard à la place des valeurs familialistes dans le discours catholique, c'est intéressant que l'argument soit repris,
moi,
je
ne
le savais pas, mais soit retourné contre l'Église
tout à
catholique.
Fait, oui. Et alors, je ne sais plus ce que je voulais dire sur le. Quelle était la question ?
Sur le triangle mari, oui. Épouse, confesseur.
Donc tout le monde rentre dans la direction avec cette serpentine. Présentation-là, donc tout le monde est très prudent parce qu'on ne veut pas prêter le flanc au scandale, à la polémique. Donc, les directeurs, chaque fois qu'il y a des conflits entre mari et femme, ils sont extrêmement méfiants. Ils ne rentrent pas, ils ne vont jamais monter les femmes contre leur mari. Alors, il y a des stratégies beaucoup plus fines de tentatives de conversion.
Convertir,
ça, c'est possible. Par contre, dans les cas de violence conjugale ou de violence sexuelle, hein, parce qu'il y en a dans le livre, hein, je pense que vous l'avez vu, les directeurs incitent à l'obéissance. Il faut prêcher la douceur,
la patience,
la prière. Mais il n'est jamais question d'encourager toute forme de révolte ou de contestation. Jamais.
Parfois, vous protégez l'identité des personnes qui écrivent et tout. Et là, Madame de F, elle se plaint ô combien auprès de son directeur que son mari est violent, la cogne, on dirait maintenant. Et elle lui écrit « Si on me dit que c'est un devoir, j'y retournerai comme un condamné va au supplice, car je mourrai de sa main. » Il y a des moments, comme disait Christian, où on rit beaucoup. Il y a d'autres moments, c'est glaçant.
Absolument.
On fait une pause.
Là-dessus.
Une pause, justement.
D'accord.
Billy Barton, qui va nous interpréter The Devil, My Conscience and I, le diable, ma conscience et moi.
The devil, my conscience and I had a discussion about you. My conscience convinced me last night to turn around and come back to you. The devil said,
why are you sticking to one girl?
Because I love her, I truly love her.
But there's many other girls in this whole world.
Yes, but none other like her. Yes, but that's all over now.
Get even with her, you cheat too.
Say maybe, maybe I will. But then my conscience said, wait a minute, son. Now conscience, you stay out of this. You'll get revenge, but you won't have no fun. You wait and see. You wait and see. But think of all the time she stood by you. Yes, but who else could she have stood by? Why, many other people need her too. She done me wrong, she done me wrong. Sure, she done you wrong a time or two. Then why shouldn't I get even? You're already even, son. You done her wrong, too. Oh, conscience. Oh, conscience. So I decided to love you and forget everything. Oh, but the devil, he told me you had lied, you had lied. So now I'm holding you, baby, 'cause the devil lost the battle and the winners are my conscience and I. The devil, my conscience, and I. The devil, my conscience, and I.
Vous écoutez Canal B à l'instant, c'était Billy Barton avec le titre The Devil, My Conscience and I. Aujourd'hui, dans votre émission consacrée à la recherche universitaire, nous recevons Caroline Muller. Elle est maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'université Rennes 2, autrice d'un carnet de recherche en ligne, Acquis de conscience est son nom, autrice également de l'ouvrage Au plus près des âmes et des corps, paru en 2019. À l'instant, vous avez pu découvrir le cheminement réflexif de notre chercheuse et du choix de son objet de recherche, la direction de conscience au 19e et 20e siècle, un moment de reconquête des âmes pour l'Église. Une pratique qui a été élitiste et libératrice par certains aspects pour les femmes dirigées. À présent, il va être question des souffrances parfois exprimées dans les échanges épistolaires entre directeurs de conscience et femmes dirigées, ainsi que de la place des époux dans ces pratiques. Nous évoquerons également le prochain sujet de recherche de Caroline Muller, la confession.
Caroline Muller, on reprend sur ces récits où des femmes pour leur confesseur et leur directeur spirituel, où transparaît leur vie intime, leur vie mondaine, leur vie familiale, et parfois non seulement les conflits conjugaux, mais la violence extrême, coups, humiliations, viols au sein des couples.
Oui, c'est un des éléments qui a été un peu plus difficile dans cette recherche, c'est que quand on ouvre un espace confidentiel, on donne aussi la possibilité à ces femmes de parler des aspects les plus durs de leur vie, et notamment les questions de violence conjugale, qu'elles soient physiques ou sexuelles. Et donc elles racontent. Elle raconte à leur directeur les coups, elle raconte ce qui se passe aussi dans les chambres.
Si j'y retourne, mon père, si on me dit que c'est mon devoir, j'y retournerai comme un condamné va au supplice, car je mourrai de sa main, ce qui sera peut-être bientôt fait de chagrin et de consomption. Le coup qu'il m'a donné était tellement violent que, ne sachant ce qui allait s'en suivre, on l'a fait constater par un médecin qui est le nôtre.
Madame de F au Père Janvier en 1907.
Et elle raconte pas, en fait, juste pour raconter, c'est-à-dire qu'elles sont souvent à la recherche de ressources. Enfin, souvent, en tout cas pour celles que j'ai lues, elles écrivent pas simplement pour se soulager. Certes, pour se soulager parce qu'il y a pas, en fait, véritablement d'autres espaces où on peut parler de ça dans ces milieux-là, parce qu'on craint le scandale, on craint la diminution de ce qu'on appelle la respectabilité, hein, qui est fondamentale dans ces familles-là. Et donc, elles sont à la fois à la recherche d'un espace où elles vont pouvoir parler, mais elles comptent aussi sur le directeur pour soit les encourager dans une démarche de séparation, soit essayer d'avoir un impact sur le mari, dans le cas où le mari est aussi dirigé ou proche du directeur. Donc, ça peut être demander à ce qu'il intervienne, en envoyant une lettre, en rappelant au mari ses devoirs. Et puis dans le cas que vous citiez tout à l'heure, Madame F, en fait, elle espère que son directeur l'encouragera à mettre en place la séparation de corps. Parce qu'on ne peut pas divorcer. Enfin, dans le monde catholique, on ne divorce pas. Le mariage est indissoluble.
Donc, le divorce est permis depuis 1884.
Oui, c'est la loi Naquet.
Voilà.
Mais là, est dans le monde catholique.
Voilà.
Et donc... Dans le monde catholique, en particulier dans ces milieux-là, il n'est pas question de divorcer.
Mais la séparation est fréquente quand même.
La séparation est fréquente, mais le divorce n'est pas une option envisagée. Et donc elle demande à pouvoir se séparer, donc c'est la séparation de corps, hein, c'est ne plus habiter sous le même toit.
Et l'Église tolère, encourage les diables.
Pas vraiment.
Bah là, dans le cas de Madame F, le Père Janvier, son directeur, lui oppose une fin de non-recevoir. Mais totale, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de négociation ou de discussion. Il s'agit d'attendre, de préserver le mariage, de préserver le lien avec le mari. Il n'est absolument pas question de se séparer. Y compris, et vous l'avez dit tout à l'heure, même si elle met dans la balance un danger de mort. Et c'est aussi une des ambivalences, c'est-à-dire que les directeurs sont prêts à négocier des formes de désobéissance au mari quand il s'agit de convertir la famille, c'est-à-dire l'objectif spirituel qui prime toujours, mais dans des cas de violence, par contre, quand ils doivent affirmer le dogme, on ne se sépare pas, quand ils n'ont plus de solution et qu'ils voient bien que là, ils arrivent au bout de l'argumentaire possible, ils se retirent de la conversation. Le Père Janvier alors je vais dire un mot un peu fort, mais il l'abandonne à son sort, en fait. Hein, c'est-à-dire qu'on a une carte, je crois que je la cite dans le livre, enfin, on a une carte de quelques mois plus tard où elle lui dit, mais vous m'avez plus jamais écrit, vous avez refusé de me voir. Moi, je pense que le directeur, il n'a pas eu le courage de dire à sa dirigée, vous restez et vous risquez votre vie. Donc, voilà, l'objectif spirituel prime et le respect du dogme prime.
C'est ça, je disais tout à l'heure que le livre était souvent très drôle, mais comme tu le disais, Colette, il est aussi à bien des égards tragique, parce qu'il y a ce que le livre, il y a ce que les lettres disent des relations intimes, puis il y a probablement ce qu'on devine et qui n'est pas dit, ce que les femmes n'osent pas dire. Et il y a aussi, ça c'est tout à fait original, la détresse dans la relation avec le directeur. C'est-à-dire, il y en a qui sont en grande souffrance dans la relation avec le directeur aussi, parce qu'elles se sentent abandonnées ou parce que tout simplement elles ne sont pas entendues.
Oui, c'est aussi un élément qui est récurrent, hein, dans toutes les lettres. On va parler du quand est-ce qu'on a reçu la dernière lettre, et on attend et on interprète le silence, et est-ce que vous pourriez me voir, est-ce qu'on pourrait se voir, et alors il y a certains directeurs, alors c'est tragique, parfois c'est tragicomique, hein, parce que il y a des dirigés qui vont faire le siège du confessionnal de leur directeur et qui vont les attendre devant chez eux. Donc il y a une sorte de pression aussi sur les directeurs, parce que comme ils sont perçus comme parfois le seul appel d'air dans les vies, il y a la pression qui va avec, en fait. Hein.
On a parfois l'impression de lire des lettres d'amour.
Ah oui, ça c'est... Alors, vous voyez, c'est tout le paradoxe, c'est-à-dire qu'il y a tout cet imaginaire du complot et de la débauche. Micheline n'arrête pas de dire, oui, mais immanquablement, de toute façon, une relation de direction ou de confession, ça ne peut que mener à l'amour. Et moi, j'ai pas vu dans mes corpus l'amour autre que sublimé ou dit dans des termes très spirituels, c'est-à-dire qu'il y a pas, j'ai pas de liaison, en fait, j'ai pas vu de liaison entre directeur et dirigé. Par contre, je vois des attachements très forts qui, dans d'autres contextes, pourraient donner lieu à de l'amour. L'abbé Frémont et sa dirigée Madame d'Adhémar, alors quand il la rencontre, c'est une sorte d'éblouissement. Il va prêcher, il lui écrit une lettre la veille en lui disant je monte en chaire avec vos fleurs sur mes lèvres. Enfin, on sort la phrase du contexte. On enlève un peu l'appareillage spirituel, puis on se dit, bon, là, quand même, il se passe quelque chose de très fort. Mais ils sont tous très conscients de la limite.
Oui, mais ça dit des choses de la détresse de ces femmes, enfin, de leur détresse conjugale par ailleurs.
Oui, mais aussi des rencontres choisies. Parce que ce qu'il faut aussi voir, c'est que, ça, j'en parle assez peu dans le livre, mais pour toutes ces femmes, le choix du directeur, c'est peut-être le seul choix qu'elles ont en termes d'interlocuteur masculin. Parce que on est dans des univers où le mariage est arrangé, donc le conjoint n'est pas exactement choisi. Enfin, il faudrait qu'on discute de ce qu'est le choix du conjoint. Mais les amitiés masculines sont extrêmement encadrées. Jusqu'à ce qu'elles entrent dans le monde, elles sont dans un environnement qui est quasi exclusivement féminin, soit au pensionnat, soit dans la famille. Donc le choix du directeur, c'est aussi la première fois qu'elles ont le droit et la légitimité de discuter de choses tout à fait intimes avec un homme qu'elles choisissent.
Mes confesseurs me conseillaient d'avouer tout à mon mari, mais je savais l'inutilité de cette audace et la peine qu'il aurait ressentie en comprenant qu'il n'était pas comme les autres. Le 1er septembre, je n'avais plus aucune foi et j'avais une admirable santé. J'ai rencontré par hasard celui qui a réalisé pour moi l'idéal dans l'amour et je me suis donné tout de suite, et dès la première étreinte, il me rendit mère.
Une femme surnommée Ma au Père Janvier en 1907.
Donc évidemment qu'il y a aussi des éléments d'intimité qui peuvent se mettre.
Qu'elle choisit sur un marché où, enfin, c'est un marché très concurrentiel, donc c'est aussi un choix de statut d'une certaine façon. C'est pas un choix de personnalité.
Oui, mais quand même, parce que quand la personnalité convient plus, on en change. Il y a des discussions autour de non mais lui il est trop sévère.
Il y a mercato puis, du.
non mais il y a une. Enfin, chaque directeur est connu pour avoir un certain profil, des spécialités, une manière de faire. Et elles en parlent. Et à un moment dans le livre, je cite une dirigée, mais c'est tout, je crois que c'est toujours Artémine, qui commente la direction de sa voisine, qui dit non mais alors là, il s'est mal comporté, il l'a pas dirigé comme il fallait, il a soufflé sur la mèche de sa sentimentalité, je crois que c'est comme ça qu'elle le dit. Et alors voilà, elle s'est complètement égarée. Donc en fait, chacun sait aussi les méthodes de direction des autres et on connaît les personnalités. Et, Et aussi le goût, les goûts mondains ou pas. Est-ce que ça va être un directeur qui va accepter d'aller dîner ou pas? Donc ces choix-là, quand même, c'est aussi un vrai choix de compagnonnage. Moi, je l'ai aussi lu comme ça, d'une certaine manière.
Les femmes étaient directement concernées, pour toutes les raisons que vous nous avez dites, fer de lance de la reconquête spirituelle pour l'Église, etc. Mais aussi, quelques hommes. Alors, comment ça se passe, la direction de conscience entre le confesseur et le mari, par exemple?
Alors, le confesseur et le mari, vous voulez dire le mari dirigé?
Oui, le mari dirigé.
Alors, la direction des hommes, c'est un très gros sujet pour l'Église catholique, parce que dans cette logique de reconquête, il y a une obsession sur le nombre d'hommes dans les églises, dans les confessionnaux. Il y a une véritable angoisse. Monseigneur Dupanloup, dans son journal intime, il note le nombre d'hommes à chacun de ses offices. C'est-à-dire qu'il y a une vraie concentration là-dessus.
Les hommes sont considérés...
Est-ce qu'ils sont beaucoup plus... Ils s'éloignent beaucoup plus vite, en fait. On considère que le catholicisme est féminisé, et donc il y a un éloignement des hommes de la pratique religieuse.
Mais aussi parce qu'ils sont considérés... Moi, j'ai sauté en l'air quand j'ai lu ça, comme un public nettement plus exigeant.
Oui,
et
c'est ça.
Il y a un moment, et ça, pareil... On rit jaune en lisant ça. Les femmes sont reléguées, comme vous dites, dans les basses nefs. Et c'est les hommes qui ont droit pour tel ou tel office d'être aux places d'honneur et tout.
Oui, c'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'Église s'imprègne aussi de toute une série de discours essentialistes sur ce qu'est le masculin, ce qu'est le féminin. Alors, elle n'est bien sûr pas la seule, hein, puisque c'est aussi le grand moment où toute la médecine va systématiser les qualités naturelles, entre guillemets, des hommes et des femmes et leurs défauts. Et donc, les directeurs, quand ils entrent en direction avec un homme ou une femme, ils vont avoir tout cet arrière-plan de ce qu'on peut dire ou ce qu'on peut faire avec une femme ou un homme, et c'est pas du tout la même chose. Donc, par exemple, les directeurs vont refuser d'entrer dans des discussions théologiques avec les femmes en considérant que le fondement de la foi féminine, ça doit être le cœur et la volonté, et certainement pas les capacités intellectuelles. Mais à l'inverse, quand on dirige des hommes, là, on va aller sur des sujets beaucoup plus technique, beaucoup plus théologique, la preuve de l'existence de Dieu, et les étudiants, il faut leur parler de leur étude, etc. Donc c'est pas du tout les mêmes modes de discours, et les mêmes canaux, et les mêmes sujets. Et la dernière chose qui est très importante, c'est que l'autorité du directeur ne va pas du tout s'exercer de la même façon. Parce que on part du principe que les hommes vont avoir beaucoup plus de difficultés à accepter l'autorité d'un autre homme sur eux, avec cette idée que la masculinité, c'est l'autonomie, l'indépendance d'esprit. Donc, on ne va pas du tout avoir le même ton directif. Par exemple, le vœu d'obéissance n'existe pas pour les hommes. Certains directeurs font signer un vœu d'obéissance aux femmes au début de la direction. Il n'y en a pas pour les hommes.
Oui, je pense que si les hommes échappent un peu au dispositif, c'est effectivement parce qu'ils se sont éloignés tout au long du 19e siècle de la sphère d'influence de l'Église catholique en plus grand nombre. Mais c'est aussi, et ça vous le dites très bien, que la fabrique des hommes, les stéréotypes masculins qui se filent quand même très fortement au même moment dans la société française, ne prédisposent pas du tout les hommes, voire leur interdisent de rentrer dans ce jeu de la confession intime. Et si je puis me permettre un anachronisme, c'est vraiment intéressant de relier ça avec les thématiques contemporaines, d'injonction à l'authenticité, à l'être soi, etc. Ce qu'on appelle parfois la féminisation du monde social, parce qu'on se rend compte que ce qui peut apparaître comme une domination masculine implacable au 19e, on peut le lire de façon un peu inverse aujourd'hui, en disant, au fond, ce registre de la confession, de l'intime, de l'authenticité, du droit à être soi, ce que les sociologues appellent la seconde modernité, oui. C'est très en avance, hein, et ce sont ces femmes-là qui d'une certaine façon anticipent la seconde modernité, pendant que les mecs sont en quelque sorte figés dans des postures du coup très ringardes et très, très datées, c'est-à-dire le refus de jouer le jeu de l'intime.
Ouais, c'est aussi qu'on leur interdit d'une certaine façon. Hein,
On l'interdit, et du coup, ils ne savent pas.
Oui, ils ne savent pas. C'est-à-dire que là, il y a un exemple dans le livre, un jeune homme qui s'appelle René. Et René, alors, il a toute une série de mésaventures sentimentales. Il est refusé par plusieurs prétendantes. Enfin, c'est très difficile. C'est une histoire très compliquée. Et René est très pieux. René, il veut aller à l'église, il veut passer du temps à faire des lectures pieuses. Et sa famille s'inquiète beaucoup de cela. Sa famille demande à son directeur de le secouer et de réduire ses pratiques religieuses. La place d'un homme n'est pas à l'église. Il faut qu'il aille à l'extérieur. Il faut qu'il se frotte aux autres hommes, je cite. Il faut qu'il ait une activité vigoureuse, qu'il monte à cheval. Donc, il y a aussi cette idée que tout le monde doit être moral. Mais les canaux de la morale et les limites des pratiques religieuses sont pas du tout les mêmes pour les hommes et pour les femmes. Là, René, il est perçu comme diminué dans sa masculinité, en fait, par son entourage.
Par l'Église elle-même.
Et par l'Église elle-même. C'est-à-dire qu'il y a aussi une idée très précise de la place des hommes dans l'action, dans le monde, pas dans l'immobilité de la prière. Donc ça a aussi un coût, en fait. Et ça peut avoir un coût même professionnel. Par exemple... Les hommes catholiques dans certains milieux, dans les milieux les plus anticléricaux, vont avoir des carrières qui vont avancer moins vite. On va être perçus comme des hommes mous, diminués. Donc, en fait, il y a aussi des coûts à cette construction des masculinités dont vous parliez à l'instant. Hein. C'est que ces modèles, ils sont enfermants pour les femmes, mais ils le sont aussi, d'une certaine façon, pour les hommes. Y compris d'ailleurs dans les injonctions contradictoires, parce qu'on dit aux hommes, il faut que vous soyez très très moraux, et puis il faut que vous entreteniez votre famille, il faut que vous soyez dans votre milieu social, et puis alors certains hommes ne peuvent pas faire tout ça en même temps. Donc qu'est-ce qu'on fait primer comme injonction, vous voyez ?
Il y a un autre homme dans votre livre, Monsieur Laveur, c'est ça ?
Lucien, oui.
Lucien Laveur. Le pauvre, il est malheureux en amour, ses fiancées veulent pas de lui, ou les familles, ou il n'a pas assez de revenus, etc. Enfin bon. Et il écrit à son confesseur, c'est ça que j'ai trouvé magnifique, « Être prêtre serait donc une sortie très flatteuse pour mon orgueil. »
Oui. Oui, alors évidemment, en face, on estime que les motivations ne sont pas suffisantes, mais... Non, mais ça, c'est une histoire très intéressante, parce qu'on parlait tout à l'heure de pourquoi les femmes s'engagent en religion, massivement, au XIXe siècle. Et on a établi que les femmes y trouvaient des ressources dans le champ religieux. Mais on n'a pas encore beaucoup développé comment les hommes aussi y trouvent leur compte. Et alors là, Lucien Laveur... il n'arrive pas à se marier, il est en train de faire couler l'entreprise familiale, et tout à coup, il se dit, j'aime bien prier, je vais très souvent à la messe, je suis très engagée dans les activités charitables, pourquoi pas, ça serait très bien. Et donc, il présente ce projet-là à son directeur avec tout un dispositif rhétorique visant à montrer la validité de ce qu'il avance. Ah, puis en plus, coïncidence, ce matin, je suis allée à la messe, c'était une messe pour les nouvelles vocations, puis tout à coup, j'ai senti que là, c'était la meilleure confession depuis 10 ans. Enfin, l'écriture aussi sert à ça, à remettre en place des éléments de façon à convaincre un interlocuteur. C'est une forme de présentation de soi. Et alors, il veut absolument devenir prêtre. Mais sauf qu'il se heurte à des obstacles, parce que son directeur ne veut pas l'intégrer dans une communauté, parce qu'il trouve que ses motivations ne sont pas bonnes. Donc, il va contourner le premier obstacle en demandant à avoir un autre directeur, faire une retraite. Puis, ça ne marche toujours pas, parce que le directeur de la retraite lui dit, non, mais là aussi, en fait, vous cherchez une sortie pour votre orgueil, mais vous n'avez pas une véritable vocation. Mais ce que j'ai découvert après avoir soutenu la thèse qu'a donnée lui au livre, c'est qu'il y est parvenu. C'est-à-dire qu'à force de multiplier les interlocuteurs, il a fini par trouver quelqu'un qui lui a quand même donné une lettre de recommandation et qui lui a permis de rentrer dans la carrière religieuse.
Est-ce que c'est lui qui est devenu chanoine de Notre-Dame de Paris ?
Oui.
C'est quand même pas mal.
Vous voyez. Donc oui. Ça, c'est intéressant. Alors, aussi en termes de coût de la masculinité, parce que ce qui est difficile pour Lucien Laveur, c'est qu'on lui dit un homme, c'est celui qui réussit professionnellement et c'est un père. Et alors lui, il n'est ni père ni flamboyant sur le plan professionnel. Donc il cherche une sortie honorable, en fait. Donc moi, je l'ai lu aussi en termes de genre, cette histoire-là.
Alors jusqu'à présent, on n'a pas vraiment quitté le grand monde, grande bourgeoisie, aristocratie. Est-ce que ces pratiques, on les retrouve aussi, enfin j'imagine qu'elles se diffusent un peu en cascade vers des milieux un peu inférieurs. Alors peut-être ça laisse moins de traces pour l'historien. C'est peut-être du coup les lettres sont moins exemplaires, elles ne donneront pas lieu à publication. Est-ce que vous pourriez évoquer ce point à la fois la mise en livre de cette correspondance a priori assez secrète, donc la dialectique un peu de l'intime et du public, et puis du coup la diffusion peut-être à d'autres milieux.
Oui, il existe des formes de direction dans le monde populaire. Hein. C'est pas seulement une des habitudes des élites, mais simplement, comme vous l'avez justement dit, pour pouvoir construire un travail d'histoire, moi j'ai besoin de matériaux. Et dans ces milieux populaires, on n'écrit pas comme ça de façon aussi systématique. Et au passage, juste pour l'anecdote, ces lettres, même dans les milieux élitaires, n'auraient pas dû exister, puisque si vous lisez juste les manuels de morale, on vous explique qu'il ne faut jamais écrire au directeur et toujours lui parler. Donc en plus, la lettre même sur lesquelles j'ai travaillé n'auraient pas dû exister si les gens avaient obéi à chaque fois à ce à quoi ils devaient se soumettre. Et donc dans ces milieux populaires, on va avoir des formes plus diluées. Ça je le sais parce que j'ai des journaux personnels par exemple d'institutrices, enfin de gens qui sont un peu des intermédiaires entre les mondes, et Émilie Serpin par exemple qui donne des leçons dans un château, elle est un peu l'écrivain public du village, c'est-à-dire que les gens viennent la voir pour toutes sortes de démarches, et elle décrit ce qui se passe, et elle décrit en particulier la façon dont la maison du curé du village est un lieu de passage, un lieu de conseil où les gens défilent quand le curé est là, à toute heure du jour, viennent prendre un conseil, viennent discuter, et ce de façon très renouvelée, hein, toute la semaine. Donc je pense que ça, vous voyez, c'est des formes de direction, mais simplement on n'en a pas de traces tangibles, et moi je peux pas m'en servir pour construire une histoire.
Je pensais à ce magnifique roman Léon Morin prêtre,
oui,
de Madame Beck, c'est ça, je ne sais plus le prénom, Béatrice Beck, je ne sais plus exactement le nom de l'auteur, qui racontait une relation un peu de direction de conscience, mais à une autre époque et dans un autre milieu aussi.
Oui, puis il y a un flou aussi sur ce qu'est la direction, parce que quand on croise son confesseur dans un autre espace, le confesseur va pouvoir donner toutes sortes de conseils aussi, de discussions, c'est de la direction en fait, hein, c'est de la direction. L'essentiel, c'est que dans les milieux populaires, le passage incontournable, c'est vraiment le confessionnal. Après, il y a toutes sortes de formes diluées, mais ça, pour moi, c'est beaucoup plus difficile à appréhender parce que je n'en ai vraiment que des sources très indirectes, hein, des récits, la façon dont on raconte la vie des communautés paroissiales, mais j'ai pas de sources.
Alors, sachant que le directeur n'est pas forcément le confesseur. Hein,
non. Et parfois même, on peut monter son confesseur contre son directeur.
Il y a concurrence, rivalité.
Parler de marché.
Mais c'est aussi un des éléments d'idée. Moi, j'ai découvert que plus les pouvoirs se multiplient, en fait, plus ils peuvent faire l'objet d'assouplissement, parce qu'on va retourner le conseil de l'un contre l'autre, y compris du mari contre le confesseur, du confesseur contre le directeur. Donc ça ouvre.
Heureusement qu'il n'y a qu'un bon Dieu.
C'est ça. Mais le bon Dieu aussi sert d'argument. Par exemple, Madame Rakoska qui dit à son directeur « Dieu seul change les cœurs, il n'a pas voulu changer le mien. » Autrement dit, je ne vois pas pourquoi j'appliquerai vos conseils, parce que de toute façon, Dieu seul change les cœurs. Donc vous voyez aussi le côté « Dieu a aussi sa place dans la rhétorique générale. »
Alors est-ce qu'il y a cette dimension que le confesseur est sévère et le directeur est plus compréhensif ?
Ça dépend des fois. Mais par contre, ce qui est clair, c'est que on peut interpréter ce qu'a dit le confesseur, et que souvent le directeur est perçu comme celui qui sait mieux. Le confesseur, c'est un peu l'ordinaire, puis c'est quand même mieux d'avoir l'absolution, parce que quand même c'est quelque chose d'important. Mais il y a cette idée que le directeur, c'est celui qui connaît la vraie vie intérieure et intime. Et il y a des enjeux de classe là à nouveau, parce que les confesseurs, ça peut être le tout venant du clergé, y compris des confesseurs plutôt de milieu populaire, alors que les directeurs, ils sont beaucoup plus choisis. On est obligé de se confesser au confessionnal de l'église de sa paroisse, en fait. Donc, on ne choisit pas toujours son confesseur, mais on choisit son directeur. Donc, on a des cas de grands nobles qui se moquent de leur confesseur et de leur
qui manquent leur singulièrement de charité au vu de leurs écrits qui sont très condescendants et méprisants pour le curé du coin, le curé de la paroisse.
Oui, le curé du coin qui apparaît comme, quelqu'un qui ne sait pas, en fait, qui ne sait pas parler.
Oui, puis quelle institution un peu standard, c'est-à-dire, voilà, il y a tel péché, tel...
C'est ça, on va cocher des cases.
Oui, on coche les cases, oui. Est-ce qu'un historien peut travailler sur la confession ?
Bah, je vais m'y mettre là. Donc oui, c'est tout un projet. Moi, je commence là-dessus. Alors, comme on m'avait dit que la direction de conscience c'était impossible, après on m'a dit que la confession c'était impossible. Je me dis bon bah on va y aller. Oui, parce qu'en fait, ce dont je me suis rendu compte en lisant et en travaillant à la constitution de ce corpus, c'est que en fait les gens parlent beaucoup de la confession, que ce soit du côté des confesseurs qui tiennent des journaux, qui ont leur correspondance, du côté de ceux qui se confessent. Et puis il y a aussi toute la question de l'espace de la confession. Il y a énormément de discussions au XIXe siècle sur où est-ce qu'on met le confessionnal, à quoi sert le confessionnal. Donc il y a aussi une entrée par l'histoire matérielle. J'ai découvert quelque chose d'un petit peu amusant, c'est que les menuisiers, il y a toute une littérature professionnelle des menuisiers qui discutent de ce qu'est qu'est-ce que c'est que ce meuble du confessionnal.
Qui date de quand, du Concile de Trente
Oui, c'est ça. Ouais. Donc c'est déjà très ancien.
Redites-nous pour nous, pauvre Concile de Trente, quelle année ?
Alors là, je ne veux pas dire une bêtise, parce que précisément, sinon je vais faire sauter en l'air mes collègues médiévistes. Donc.
J'ai dû me noter.
Et donc le confessionnal, pourquoi c'est intéressant pour moi ? Parce qu'on discute beaucoup de l'intimité, de la naissance, du développement.
1545.
Oui, 1545. J'allais dire 1530, donc vous voyez, je me serais trompée. Et donc le confessionnal, pour moi, c'est intéressant parce que c'est une entrée matérielle dans l'intimité. Parce que vous voyez, les historiens du 19e discutent beaucoup du développement de l'individualisme, de l'intimité, de cette notion d'intimité. Mais sauf que ça, on en a des témoignages très très épars. Et moi, maintenant, j'aimerais bien voir ce qui se passe quand on réfléchit à ça à partir du matériel. L'espace du confessionnal, c'est un espace. Donc les gens attendent, il y a la queue, parfois ils s'engueulent, ils se passent devant. Les confesseurs sont obligés d'éloigner les parents qui veulent écouter les confessions de leurs enfants. Donc j'aimerais travailler sur cet espace-là et sur ce qui se produit en termes de secret. Comment on protège le secret ? Parce qu'essayer d'imaginer, il s'agit d'aller raconter ses secrets et sa vie morale au milieu d'un espace où il y a parfois énormément de monde, beaucoup de bruit, sous les yeux de tous les gens qui attendent. C'est un peu comme si aujourd'hui, en allant chez le psy, vous aviez une file d'attente de 30 personnes qui regardent où est-ce que vous allez, quel psy vous allez voir.
Et combien de temps vous restez ?
Combien de temps vous restez ? Quelle tête vous faites en sortant ? Est-ce que vous... Alors, en plus, dans le cadre du confessionnal, est-ce que vous vous êtes fait disputer ou pas ? Donc,
parce qu'il y a des éclats de voix.
Voilà, et donc moi, je voudrais travailler là-dessus, en fait. On dit que c'est une pratique d'intimité, mais pour moi, c'est plus compliqué que ça. Et j'aimerais travailler sur ce qui se passe dans cet espace public du secret.
Il y a aussi
toute
l'esthétique du confessionnel dont s'est emparé en particulier le cinéma. Il y a quand même des scènes magnifiques. Alors, je sais plus comment on dit le grillage, la grille. C'est pas, en bois,
lumière,
etc., plus ou moins de lumière et tout. C'est...
Beaucoup de scènes de meurtre au cinéma à travers
mais bien sûr, mais bien sûr. Mais vous allez vous intéresser donc au côté, j'ai envie de dire, extérieur, social. Mais ce qui se dit, ça, vous n'y avez pas accès.
Bah si, mais de façon indirecte. Mais de toute façon, quand on fait de l'histoire, toute source est indirecte, en réalité. C'est toujours une médiation. Donc si, j'y ai accès par les journaux personnels, par la correspondance, parce que les gens disent de ce qu'ils ont dit ou pas. Chez les jeunes filles, par exemple, je le sais déjà, puisque comme j'avais travaillé là-dessus il y a un petit moment, les jeunes filles, elles évoquent en long, en large et en travers ce qu'elles ont dit à leur confesseur, les réactions du confesseur. Elles ont ri parce qu'elles ont vu les mollets de leur confesseur. Enfin, toutes sortes de choses comme ça, qui peuvent aussi être très concrètes, en fait. C'est pas juste une pratique éthérée, c'est du concret. Donc, je pense qu'il faut rentrer par là.
Il nous reste très peu de temps, Caroline Muller. Juste, dernière question. Là, en 2019, la direction de conscience, la confession, c'est quoi ? Vaste question. Et aussi, l'Église secouée par des scandales financiers, des scandales prêtres pédophiles, moins de vocation, etc. etc. Ça a quel sens ?
C'est un peu la même culture de remise de soi à l'institution, avec tous les excès que ça rend possible.
Alors moi, je suis toujours assez
Est-ce que le psy a remplacé aussi, le directeur de conscience ?
En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a ce rapport à soi, cette façon de se regarder, de s'observer, de se remettre à quelqu'un d'autre qui a trouvé d'autres espaces. Hein. L'exemple de la psychologie est un bon exemple, évidemment. Maintenant, ça ne veut pas dire que toutes ces formes aussi spirituelles et proposées par le clergé ont disparu. Hein. On a aussi une vision très européenne du recul des pratiques religieuses, mais en réalité, la confession, ça reste une réalité très importante dans tout le monde catholique, parce que ça reste une obligation. Hein, donc voilà, faudrait pas se dire que c'est une pratique qui appartient juste au 19e siècle. Et la direction, même en France, commence à retrouver une certaine vogue, en particulier dans ce qu'on appelle, au sein du milieu qu'on appelle les catholiques d'identité. Les sociologues ont proposé ce terme-là. C'est toute une frange des catholiques qui vont avoir un retour à une lecture beaucoup plus rigoriste des injonctions de l'Église.
C'est ce que nous on
par
dirait.
Par exemple, en termes de contraception.
Traditionnaliste ou intégriste.
Ah, c'est pas tout à fait pareil quand même, parce que là, enfin, on n'est pas tout à fait sur les mêmes milieux non plus. Mais par exemple, avec un rapport aux prêtres où on va restaurer une forme d'autorité, on va reprêter une autorité beaucoup plus forte aux prêtres avec un rapport beaucoup plus vertical. Et donc, ça veut dire aussi que ce qu'on appelait jusqu'à il y a assez peu de temps encore l'accompagnement spirituel, on revient à ce qu'on va appeler la direction spirituelle. Donc ce mot-là, vous voyez, ne serait-ce que dans les mots, ça dit quelque chose de la façon dont on perçoit la pratique.
Ce qu'on appelle les coachs aujourd'hui.
Oui, les coachs. Alors, oui, moi ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est la façon dont cette direction de conscience, c'est aussi un lieu où on s'explore, on va essayer de s'améliorer, et on a toutes sortes de techniques et d'outils pour ça. Et penser à tout le développement personnel, hein, et la mode du développement personnel, avec certaines grilles dans le bullet journal, par exemple, cette pratique de quantification de soi, où on va cocher des cases, etc. Eh bien, moi, ça m'a beaucoup fait penser à certaines grilles d'examen de conscience que j'ai découvert dans mes sources au 19e siècle.
Caroline Muller, on vous remercie.
Mais c'est moi.
On vous retrouvera dans quelques temps sur la confession, si j'ai bien compris.
Oui, tout à fait.
Je rappelle le titre de votre livre, Au plus près des âmes et des corps, une histoire intime des catholiques au 19e siècle. C'est édité au PUF et ça coûte 23 €. Merci Christian Lebar, merci notre réalisatrice Lucille Wapre. Et rendez-vous dans un mois pour une nouvelle émission de Chercheurs en ville.